Vous êtes sur RTL.
RTL Matin.
6 minutes pour trancher.
8h22, bonjour Geoffroy Roux-de-Bézieux.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes bien entendu président du MEDEF. Édouard Philippe a donc promis d'intensifier l'acte 2 au soir des élections. Le gouvernement dit vouloir poursuivre ses réformes. Ça commence par quoi pour le MEDEF?
Les réformes du gouvernement?
Oui.
Les deux
Qu'est-ce qui est prioritaire
réformes,
pour vous?
Les deux grandes réformes qu'il faut faire rapidement, c'est l'assurance chômage et les retraites. On comprend que ça devrait être arbitré rapidement pour l'assurance chômage, avec des choses positives et d'autres qui le sont moins. Mmh. Et puis les retraites d'ici la fin de l'année. Plus largement, il faut continuer la politique qui a été menée depuis maintenant 4 ans en réalité, hein, qui est une politique de l'offre. Politique de l'offre, c'est quoi? C'est de donner de la compétitivité aux entreprises pour qu'elles créent des emplois. Et ça a marché, il y a 800 000 emplois qui ont été créés depuis le 1er janvier 2014.
Vous êtes donc optimiste ce matin?
Optimiste, non, je suis. J'attends le cap du gouvernement dans le discours du 12 juin et j'espère que les discours aujourd'hui seront suivis par des actes.
Donc les retraites, l'assurance chômage, c'est-à-dire exactement les deux dossiers majeurs qui doivent être pris en main par le gouvernement.
Je vais commencer par l'assurance chômage parce que c'est important. On a un paradoxe en France, hein, une croissance qui se tient plutôt pas mal, en tout cas par rapport aux autres pays européens, et un chômage qui baisse pas assez vite. Et dans les raisons, il y a des problèmes de compétences, il y a des problèmes de géographie. Je rebondis sur l'actualité, mais quand on voit ce qui se passe à Belfort, bon, il y a 1000 personnes, oui, à peu près, qui risquent de perdre leur emploi. Mmh. Mais il y a des endroits où on est à 3 ou 4% de chômage en France. Et je pense qu'il faut repenser la manière dont on permet aux gens de se déplacer pour aller chercher du travail. Et puis, il y a un troisième sujet qui est de nature différente, qui est l'assurance chômage, qui parfois, dans certains cas, pas pour tout le monde, maintient les gens au chômage parce que le revenu de remplacement est trop proche du revenu du travail.
Sur ce point, vous restez totalement opposé au bonus-malus. Les contrats courts sont pourtant un problème réel dans notre pays, hein, vous le savez.
Les contrats courts sont un problème réel. Je note quand même que depuis quelques mois, la part des CDI augmente. Très significativement. Oui. Je ne sais pas si c'est une tendance de long terme, hein, parce que c'est vrai que c'est depuis 3 trimestres, mais elles augmentent. Maintenant, nous, on avait fait des propositions sur les contrats courts qui s'adressaient aux salariés, pour mieux les former, pour mieux rémunérer. Le gouvernement préfère pénaliser les entreprises avec un système très compliqué de bonus-malus par secteur, qui, en fonction du taux de séparation d'une année N, fera un bonus ou un malus l'année suivante. Bref.
Avec les entreprises, c'est jamais assez simple, c'est bizarre. Et pourtant, vous êtes comme tout le monde, assujetti, je dirais, à des règles de fonctionnement.
Oui, beaucoup de règles. Beaucoup, beaucoup de règles. Nous, on demande... Attendez, soyons clairs, il faut des règles. Bien sûr qu'il faut des règles. Hein. Les libre entreprise, c'est pas la jungle. Mais si elles changent tout le temps, et que d'une année sur l'autre, le bonus ou le malus va changer en fonction du comportement de l'ensemble du secteur, c'est juste ingérable. Mais de toute façon, je vais vous dire, ce bonus malus, il va avoir lieu, le président de la République l'a annoncé.
Oui.
Bon, nous on est républicains, on va s'y conformer.
Oui.
Mais moi je vous prends le pari ici, si vous me réinvitez dans 1, 2 ou 3 ans, que ça n'a pas transformé un seul CDD en CDI. Et donc c'est un mauvais système.
Nous prenons rendez-vous, puisque vous nous dites par ailleurs que vous êtes décidé à ne pas bloquer le système, bien que vous y soyez fondamentalement opposé.
On est républicain, le président de la République arbitrera le moment venu.
On a eu une vraie vague verte aux dernières élections européennes, en France et en Europe. C'est un message qui nous est quand même adressé, et c'est aussi un message aux entreprises. Est-ce que vous l'avez entendu? On oppose souvent écologie et compétitivité.
Alors, juste peut-être une remarque quand même. Dans l'Europe, il y a eu deux vagues, hein. Une vague verte et une vague qu'on peut qualifier de protectionniste souverainiste.
Oui.
Les deux sont importantes, me semble-t-il, entre ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis. Nous, on a pris aussi un message où les Européens ont vu que l'industrie, l'économie européenne, les entreprises européennes soient en capacité de se défendre dans cette guerre économique. Sur la vague verte, oui, bien sûr, les entreprises ont les solutions et il ne faut pas opposer économie et transition écologique. C'est souvent dans les entreprises qu'on peut trouver les solutions pour produire de manière plus sobre et plus économe en carbone.
Est-ce qu'on n'essaye pas de dire oui à tout le monde en ce moment? J'ai envie de vous dire que si on veut une planète qui respecte le climat, on va vers la décroissance. Et quand on attaque la décroissance, bah forcément, on impacte le pouvoir d'achat. Je ne vois pas comment
vous parlez des politiques.
Autrement.
Là, vous parlez des politiques.
Ah oui.
Peut-être, mais je vais vous dire, on peut combiner l'indispensable transition écologique et le maintien d'une forme de croissance. Alors, il faut changer les modèles productifs, mais il y a plein d'industries qui sont dans ce mouvement-là. Je vais vous donner un chiffre simple. Hein. Depuis 10 ans maintenant, les émissions de carbone de l'industrie française qui est produite en France, c'est moins 20%.
Mm-hmm.
Malheureusement, l'empreinte carbone du pays continue d'augmenter. Pourquoi? Parce que les produits importés qu'on importe parfois de très loin ont un contenu carbone plus élevé. C'est pour ça que le mécanisme de taxe carbone aux frontières, qui est très compliqué à mettre en place, est quelque chose qu'il faut étudier.
Depuis hier, certains députés demandent la fermeture de 72 lignes aériennes intérieures. Ça vous choque ?
C'est pas que ça me choque, je pense que c'est juste pas réaliste. Il faut pousser les moyens de transport alternatifs. Bien sûr, il faut encourager tout ce qui ne consomme moins de CO2. Mais de toute façon, pour se transporter, on fait du CO2. Mais aussi encourager le télétravail, mais aussi encourager toutes sortes de moyens alternatifs. Mais punir et interdire n'est pas la bonne solution. On voit bien derrière la taxe carbone que ça crée une insatisfaction de la population.
Pardonnez-moi, quand Air France propose un Paris-Marseille à 39 euros, j'ai envie de vous dire, c'est formidable pour le consommateur, mais on comprend bien que c'est la réalité du prix est ailleurs et que c'est pas possible d'une certaine façon, en plus de la pollution que ça génère.
Alors, enfin, il y a deux questions dans votre question.
Oui.
Est-ce
absolument.
Que c'est économiquement viable ? Je ne suis pas le président d'Air France, donc il faut lui poser la question. J'ai à l'incitation à dépenser du kérosène par rapport au train. Je vais vous répondre d'une manière un peu plus large. Les industriels, enfin les entreprises ont besoin d'incitations de long terme pour aller dans la transition. C'est pour ça que nous, on est favorable à la taxe carbone. C'est pas souvent que le président du MEDEF vous dit qu'il est favorable à une taxe.
Oui, en effet.
C'est même assez rare, je vais vous dire.
Nous sommes d'accord.
Mais on y est favorable à condition de choses qu'elles soient stables dans le temps. Un des problèmes des Gilets jaunes, c'est qu'on avait une taxe carbone, une trajectoire, et qu'on l'a changée. Nous, on a besoin de ce que les économistes appellent des externalités, des signaux prix, si vous voulez, pour adapter nos modèles de production. Mais il faut que ça soit sur le long terme.
Vous nous dites, ce matin sur RTL, nous sommes favorables à une taxe carbone, mais elle doit être claire et installée sur le long terme. Ça ne peut pas changer dans 6 mois.
Exactement. Il y a un exemple formidable qui est la Suède. La Suède a commencé la taxe carbone en 91. Et aujourd'hui, ils ont une industrie qui est beaucoup plus décarbonée que la moyenne européenne, parce que cette trajectoire elle a été respectée pendant 20 ans. C'est ça le bon modèle. C'est le modèle qui permet aux industriels de s'engager fortement dans cette transition.
La France détrône l'Allemagne chez les étrangers en termes d'attractivité. Bon, c'est une bonne nouvelle.
C'est une très bonne nouvelle.
On est capable de rattraper les Britanniques ?
Écoutez,
qui sont les premiers ?
Oui, mais on peut imaginer qu'avec le Brexit, si surtout c'est un Brexit dur, ce classement ne durera pas. Ça a été longtemps.
Et en même temps, le chômage baisse peu. Alors, c'est ça qui est troublant.
J'en ai parlé il y a 2 minutes. Hein. Le chômage baisse peu. Pourquoi ? Parce qu'on a un système de marché du travail qui ne réagit pas quand il y a de la croissance. Avec quand même un bémol important et qui est très significatif. Le chômage, il est très hétérogène en France. Vous allez à Laval, j'y étais dernièrement, vous avez un chômage à 4%. Et puis vous allez dans le nord de la France ou dans d'autres endroits et vous êtes à 15, 16, 17%. Oui. Donc on peut avoir un chômage très bas en France, l'équivalent de ce qui existe aujourd'hui aux États-Unis dans certaines régions. Donc on peut y arriver partout, mais il faut réformer.
Ces régions où le chômage reste très important, c'est quoi ? La formation ?
Formation, mais aussi un sujet compliqué, d'ailleurs un peu le sujet des Gilets jaunes d'une certaine manière, c'est que partout dans le monde, mais en France en particulier, les métropoles et certaines métropoles attirent les emplois, la richesse, les entreprises, les investissements. Et on a un problème très net de ville moyenne. On le voit d'ailleurs, nous, dans nos entreprises, dans nos MEDEF territoriaux. C'est-à-dire, un des sujets que je porte au MEDEF, c'est d'essayer de trouver une manière de re-rendre les territoires historiquement industriels plus attractifs pour recréer de l'emploi.
Il y a un dossier majeur dont on parle en ce moment, c'est celui de General Electric, qui peut et doit faire mieux, c'est ce qu'a dit hier Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, sur le site de Belfort. Vous pensez que General Electric peut vraiment revoir sa copie et que peut faire le gouvernement ? Et est-ce que le gouvernement, finalement, au-delà des...
Écoutez,
j'ai envie de vous dire des gesticulations peut-être nécessaires, doit accompagner ce genre de choses.
Je ne commenterai pas les gesticulations ou les déclarations politiques. Le fond du problème, c'est quoi ? C'est qu'on fabrique des turbines à gaz, énergie fossile, à Belfort, et que ce marché a été divisé par deux. Donc, est-ce que c'est 1000 emplois ? Est-ce que c'est 800 ? Je ne peux pas me prononcer. Par contre, la question,
mais
c'est...
Mais vous vous rendez compte du drame pour la région.
Bien sûr, mais ça rebondit avec ce que je disais. Mais attention, la transition énergétique, comme toutes les transitions, elle détruit de l'emploi dans certains secteurs.
Elle
les moteurs diesel, par exemple, et elle va en créer d'autres. Les éoliennes. Il se trouve que General Electric fait des éoliennes. Oui. Ils en font à Cherbourg, ils vont peut-être en faire à Saint-Nazaire. Et là, on revient au problème que j'évoquais. C'est qu'il y a des endroits où on crée des emplois, des endroits où on en détruit. Comment on fait pour assurer les transitions ? Les transitions pour les individus, la formation, etc. Mais aussi la mobilité. On est le pays, on ne le dit pas souvent, où la mobilité géographique des individus est la plus faible. Enfin, dans l'OCDE, en tout cas. Et ça, c'est un vrai problème. C'est culturel, c'est ancien.
Je crois que vous nous donnez... Enfin, vous avez une analyse qu'on peut tout à fait comprendre et qui correspond à la réalité. Mais est-ce que vous comprenez que pour beaucoup de ceux qui nous écoutent, leur dire « Vous êtes gentil, prenez votre pactage, allez travailler à 100 km... » Non, mais j'entends bien. Et ça peut être perçu comme ça. Et comme vous êtes le patron des patrons, c'est important que je vous pose cette question.
Bien sûr, mais c'est ce que je dis n'est pas ça. Je dis, il y a des emplois qui seraient dans certains endroits, collectivement, État, syndicat, entreprise, comment on fait pour que les gens puissent
avoir les compétences ? Un salarié de 55 ans qui a toujours travaillé dans l'usine à gaz, comment on fait pour le remettre à jour, si je puis dire ? C'est terrible. Alors, comme expression.
Bien sûr, c'est un des problèmes, c'est une responsabilité des employeurs, la formation, et je comprends que Bruno Maire cherche à créer d'autres emplois à Belfort, évidemment, parce qu'il y a les problèmes. Mais je faisais un commentaire général en disant, dans un monde de transition numérique, transition écologique, l'idée de la mobilité, qu'elle soit géographique ou sectorielle, est importante. Il faut que les Français sachent, et moi, mon rôle, c'est de leur dire la vérité, qu'ils n'auront pas le même emploi toute la vie, au même endroit. C'est psychologiquement peut-être compliqué à intégrer, déstabilisant, mais c'est une réalité de l'économie sur laquelle il faut que collectivement on se prépare, y compris avec des aides au déménagement, une capacité. Un des problèmes, c'est l'immobilier. Il y a des endroits où, quand il n'y a plus de boulot, vendre sa maison, ça devient très compliqué. Ça fait partie des choses auxquelles il faut travailler.
Merci beaucoup, Jean-François Desieux, d'être venu faire le point ce matin sur ce qu'on estime être le second acte de mobilisation du gouvernement. Les retraites et l'assurance chômage sont évidemment les deux dossiers prioritaires, nous avez-vous dit. Et par ailleurs, vous êtes favorable à une taxe carbone à partir du moment où elle est constante. Nous sommes bien d'accord ?
Nous sommes d'accord.
Bonne journée à vous.
Yves Calvi, RTL Matin.
Pour répondre à toutes vos questions.